Les prochaines informations, bien sûr, seront d'ici une heure.
Very good Bowie trip.
Tout un été en compagnie de David Bowie. 9 épisodes pour raconter le parcours d'un artiste insaisissable qui n'a jamais cessé de mourir pour mieux renaître.
Very good Bowie trip. Les 9 vies de David Bowie.
Alors voilà, nous sommes presque parvenus au terme de notre odyssée de David Bowie. Il me reste à raconter dans ce dernier épisode son ultime étape, sans doute la plus intrigante. On le sait, en juin 2004, en plein concert, sur une scène du nord de l'Allemagne, David Bowie a été foudroyé par les premiers symptômes d'un infarctus dont les séquelles n'ont par chance pas été trop lourdes. Beaucoup ont cru qu'une fois remis, il reprendrait vite les concerts et les tournées, or il n'en a rien été. À de très rares exceptions près, David Bowie s'est délibérément effacé de la vie publique. L'homme qui avait su si admirablement se mettre en scène est devenu quasiment l'homme invisible. Et cette absence même fut un événement. Il accomplit pourtant un dernier tour de magie, la théâtralisation de son ultime effacement, de sa mort elle-même. Une colère grinçante, c'est rare chez David Bowie. La chanson qu'on vient d'entendre, The Next Day, le jour d'après, constitue la fracassante entrée en matière de l'album du même nom que le chanteur décide soudain de diffuser à la fin de l'hiver 2013. La surprise est grande, voilà 10 ans qu'il n'a pas publié d'album et beaucoup se sont habitués à considérer que David Bowie est désormais un volcan éteint. Le ton sardonique et les images violentes de cette chanson inaugurale, The Next Day, ont de fait de quoi étonner. La musique rappelle le rock'n'roll d'un des groupes préférés de Bowie, les Pixies. Quant aux paroles qui évoquent un tableau religieux du Moyen-Âge, elles font penser au style d'Elvis Costello, un auteur et interprète que Bowie apprécie. Je cite « Ils œuvrent pour Satan alors qu'ils sont vêtus comme des saints. Ils savent que Dieu existe parce que le diable leur a dit. Ils crient mon nom qui résonne au fond du puits. » Et encore « Et me voici, pas tout à fait mort. On a laissé mon corps pourrir au creux d'un arbre. Ses branches jettent des ombres sur la potence qu'on a dressée pour moi. » Alors le petit film, la vidéo, tournée pour illustrer ce titre, met en scène un prêtre catholique lubrique évoluant à l'intérieur de ce qui ressemble à un bordel de luxe. Il est entouré de prostituées et on en voit une à la fin incarnée par Marion Cotillard, dont les mains se mettent à saigner abondamment. Bowie, quant à lui, est installé au fond de la pièce, comme étranger à cette scène. Il se tient sur une petite estrade à peine surélevée et chante entouré de ses musiciens. Il est vêtu comme le personnage d'un tableau médiéval, voilà, ça se confirme, d'une robe claire de pénitent en tissu grossier et une épaisse corde fait de nombreux tours autour de son cou. Le prêtre, à un moment, pointe son doigt vers lui en criant que tout ça est de sa faute. On croirait la mise en scène d'un cauchemar que David Bowie a réellement fait. À la sortie de l'album The Next Day, le chanteur n'accorde absolument aucune interview. Sollicité, son collaborateur privilégié, le réalisateur artistique Tony Visconti, avance que cette chanson a été inspirée à Bowie par un épisode de l'histoire de l'Angleterre au Moyen-Âge, puisé dans l'une de ses nombreuses lectures. Possible. Mais en 2013, on est évidemment libre d'y sentir, d'y voir, d'y entendre d'autres allusions. On peut penser par exemple à la tartufferie de ceux qui prônent la vertu ainsi qu'une pratique austère de la religion et qui, en privé, s'adonnent à tous les vices qu'ils fustigent chez les autres. C'est bien sûr le propre des poètes comme Bowie de capter les vibrations de leur époque et celles de ce début de 21e siècle sont hélas négatives, voire exécrables. J'ai d'ailleurs été frappé par la pertinence d'une intuition dont Bowie s'est ouvert il y a près de 20 ans. Il répondait à une interview où on l'interrogeait sur le choix du titre qu'il avait donné à son album de 2003, Reality, hein, réalité. Je cite les propos étonnamment clairvoyants de David Bowie en cette année-là. « J'ai l'impression que la réalité est devenue une abstraction pour un si grand nombre de gens aujourd'hui. Les choses que l'on considérait comme des vérités ont disparu. » On ne peut plus s'appuyer sur rien, le savoir est mort, seule existe l'interprétation des faits qui nous submergent jour après jour, on dirait qu'on a abandonné le savoir en route et qu'on est comme perdu en mer. Il n'y a plus rien à quoi s'accrocher et évidemment, les circonstances politiques actuelles nous font dériver encore davantage. Voilà, signé David Bowie en 2003. Alors que dire du chanteur après son accident cardiaque de juin 2004 ? Eh bien, comment résumer les choses ? En fait, il change de peau. Il a beau annoncer dans un premier temps qu'il va se remettre en selle et repartir en tournée avec son groupe, ou bien qu'il a encore 2 projets d'albums, notamment un d'électro sous une identité masquée, rien ne verra jamais le jour. En fait, une autre vie l'attire. Sa priorité dans ces années-là, c'est sa famille. Celle qu'il forme avec sa femme, Iman, et leur petite fille, Lexi, qui vient d'avoir 4 ans. Il ne souhaite pas qu'elle grandisse loin de lui. Et à partir de cette année 2004, Bowie, âgé de 57 ans, entame une vie de retraité et de père de famille tardif à New York. Le reste du temps, il lit beaucoup, il peint aussi, et le plus surprenant peut-être, c'est que le nomade, justement, qu'il était, a cessé de l'être. L'homme qui a vécu à Berlin, à Los Angeles, à Lausanne, qui a voyagé en Afrique, qui a eu une maison à l'île Moustique, au sud de la Martinique, et sur l'île des Bermudes, dans l'Atlantique Nord, n'a plus du tout envie d'ailleurs. Pour David Bowie, la vie en tournée est terminée. Il ne fera plus que 3 apparitions scéniques. Une brève collaboration avec le groupe Arcade Fire, fin 2005, à New York, afin de lever des fonds pour les victimes de l'ouragan Katrina, qui a frappé la Nouvelle-Orléans. Une autre fois à Londres, comme invité spécial de David Gilmour, du groupe Pink Floyd, sur la scène du Royal Albert Hall, pour y chanter notamment Arnold Lane, une chanson composée par le fondateur du groupe, Syd Barrett, un de ses modèles. Et une dernière fois, enfin, en novembre 2006, sur une scène new-yorkaise pour un concert de charité auprès de la chanteuse et pianiste Alicia Keys. Il interprète une magnifique version de Wild as the Wind et en duo avec elle de Changes. Et ce sera absolument tout. C'est dire l'étonnement qui se répand à l'hiver 2013 quand David Bowie annonce qu'il publie un nouvel album. Personne, hormis ses proches collaborateurs, ne sait alors qu'il en préparait un. Un mois avant la sortie, même sa compagnie de disques n'était pas au courant, tant le secret a été bien gardé. Alors à l'heure où pullulent toutes sortes de micro-célébrités sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, David Bowie a choisi de disparaître, en tout cas de ne jamais apparaître, d'où le choc que constitue son retour. Dans la chanson que je vous propose d'écouter à présent, « The Stars Are Out Tonight », les stars sont de sortie ce soir, extraite toujours de « The Next Day », David Bowie se livre à un commentaire acerbe sur la et les célébrités qui s'exhibent sous toutes les coutures, et sur le public qui les vampirise et se repaît de leur sang un sujet qu'il ne connaît que trop bien. Et la chanson dit « Les stars ne dorment jamais, les mortes comme les vivantes. Elles vous brûlent de leurs sourires rayonnants, elles vous piègent dans leurs yeux magnifiques, elles sont fauchées, elles ont honte, elles sont bourrées ou mortes de peur, mais j'espère qu'elles vivront à tout jamais. » Au fond, Bowie est capable de renoncer à tout, sauf à sa croyance, malgré son pessimisme, en la magie et une forme de sacré, dont les stars gardent malgré tout un petit quelque chose. Et il saura le manifester encore une dernière fois.
through the dark, leaving slips of paper somewhere in the park, hidden from your friends, stealing all they knew. Lovers thrown in airless rooms, then vile rewards for you. How I'm gonna tell, yes I've gotta tell, gotta tell the things you said. When you're talking in the dark, and I'm gonna tell the things you've done. Landscape filled with wrath, gray and concrete city, rain has wet the street. I want to see you clearly before you close the door. A room of bloody history, you made sure of that. I can see you as a corpse hanging from a beam. I can read you like a book. I can feel you falling. I hear you moaning in your room. Oh, see if I care.
Une ballade mélodramatique signée par David Bowie, You Feel So Lonely You Could Die. Tu te sens seul à en mourir. Elle figure dans l'album The Next Day qui, en 2013, je vous le disais, a marqué son surprenant retour. La formule à peine déformée a pour source une chanson très célèbre, Heartbreak Hotel, immortalisée par Elvis Presley qui chantait de sa voix souffrante, comme agonisante, I'll be so lonely I could die, je serai seul au point d'en crever. Voilà. You feel so lonely you could die par David Bowie, ça n'a absolument rien à voir. Dans cette chanson, le personnage qu'il incarne menace carrément quelqu'un de mort. L'ambiance est celle de la guerre froide, on est sans doute à Berlin. La nuit est tombée dans un parc, il y a un traître, un agent double, il doit payer. Une piqûre empoisonnée dans un train bondé, une balle de revolver tirée dans une rue sombre, un corps jeté dans le vide, ou bien se balançant au bout d'une corde, peu importe comment, la mort du traître sera certaine. Et à la fin de la chanson, Bowie a ces mots glaçants, tu seras la proie de l'oubli, Seule la mort t'aimera. J'espère que tu te sentiras seul à en crever. Encore un de ces cauchemars qui ne cesse de le traverser. Le style musical de la chanson en rappelle une autre, de 40 ans plus ancienne, Five Years, l'entrée en matière du célèbre album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Une chanson dont le style, déjà en 1972, avait quelque chose de délibérément rétro, évoquant les ballades grandiloquentes qu'orchestrait Phil Spector au début des années 60. En cette fin des années 2000, Bowie a eu l'occasion de repenser à son auto-création la plus illustre, celle du personnage de Ziggy Stardust. En effet, un producteur de Broadway l'a sollicité pour en faire une comédie musicale. Bowie l'a envisagé un temps avant finalement de renoncer. Il s'est dit que Ziggy n'était plus sa propriété. Chacun avait pu projeter sur lui ses rêves de délivrance ou encore ses fantasmes de décadence ou de dépravation. Il ne fallait pas le figer dans un spectacle. 40 ans après Ziggy, la fin du monde que Bowie prophétisait, en particulier dans la chanson Five Years, a eu lieu. Le monde ancien n'est plus, le mur de Berlin est tombé, et avec l'attaque contre les tours jumelles le 11 septembre 2001, tout un pan de l'Empire américain s'est effondré. Il n'existe plus de destin, ni d'espoir collectif pour l'humanité, ni même, au fond, d'angoisse collective, juste une addition anarchique d'angoisse individuelle et parcellaire. Il n'existe plus dans nos sociétés occidentales qu'une succession d'instants sans queue ni tête, et Bowie est, comme chacun de nous, condamné à l'instant, l'instant qui s'efface aussitôt après être apparu. C'est précisément ce que traduit l'étrange image qu'il a choisie pour illustrer l'album « The Next Day ». Le livret du CD reprend la célèbre photo en noir et blanc de l'album « Heroes » paru en 1977, où l'on voyait David Bowie, jeune, en noir et blanc, en gros plan, la tête inclinée, le regard vide et inexpressif, un pantin dont on aurait coupé les fils. 36 ans plus tard, en 2013, c'est exactement la même image, mais oblitérée. Le visage de Bowie a presque complètement disparu, on ne voit plus qu'un bout de main et de cheveux et un petit morceau d'oreille. Et pourtant, c'est la même image, strictement, mais recyclée. Le mot « Heroes » est rayé d'un trait noir sur la pochette, et surtout, on a collé en plein sur le visage de Bowie un large carré blanc, de façon aussi sommaire qu'irrespectueuse, comme vous savez sur ces produits qu'on brade dans les solderies à moins 70% et dont personne ne veut. Le titre « The Next Day » apparaît au milieu du carré blanc, en très gros caractères, dans une police inesthétique qui semble n'avoir fait l'objet d'aucun choix particulier. Une idée du graphiste anglais Jonathan Barnbrook. Pour montrer que Bowie n'a plus de valeur, qu'il est devenu un produit comme un autre, qu'on recycle, qu'on reconditionne, comme on dit aujourd'hui, comme un vieux téléphone ou un vieil ordinateur. Comme toujours chez Bowie, il ne s'agit pas de cynisme, mais au fond, tout le contraire. Révéler le monde tel qu'il est devenu, c'est pour lui nous poser une question angoissée. Il nous demande si nous éprouvons le même vide que lui. C'est encore une manière de se raccrocher à nous. Il le déclarait déjà en 2002, depuis la fin des années 60, j'explore le même thème, la solitude de l'humain, sa lutte pour se relier à l'univers. Alors la chanson la plus mémorable et même inoubliable de David Bowie qu'on découvre dans l'album The Next Day reste Where Are We Now? Bowie l'a diffusée en avance de l'album au tout début de l'année 2013, le jour même de son 66e anniversaire, le 8 janvier. Une vidéo l'accompagnait. Et je me rappelle encore l'émotion particulière que j'ai ressentie en la découvrant. Une ballade très lente, dépouillée, que Bowie avait composée au clavier. Il y répète de manière obsédante la formule « Walking the dead », « promener les morts ». Il se remémore les divers lieux qu'il a fréquentés lors de son séjour à Berlin-Ouest avec Iggy Pop et son assistante Coco Schwab entre 1976 et 1978. Comme par exemple le grand magasin KDV, où l'on trouvait tout, enfin le tout de la période. Au milieu d'un bric-à-brac d'objets kitsch, une vieille télévision montre des images en noir et blanc passées de ce Berlin-là. Et le visage de David Bowie surgit, impassible, comme maladroitement découpé, inséré à la place de la tête d'une poupée bizarre, réduit à un objet kitsch comme un autre. Avec ce même sens de l'humour et du dérisoire que Bowie a toujours montré, y compris, et j'allais dire surtout, dans l'évocation du tragique. Where are we now? Où en sommes-nous aujourd'hui? Oui, à quoi sommes-nous rendus? dans quel état sommes-nous ? Bowie a souvent rappelé qu'il ne s'intéressait pas à son passé et encore moins à sa propre mythologie, mais ce n'était pas tout à fait exact.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, remember the stars. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Thousand people, crossbows and booker, fingers are crossed just in case, walking the dead.
Very Good Bowie Trip, Mishka Assayas, sur France Inter.
Thank you.
Une chanson peu connue de David Bowie, Toy, entre parenthèses, Your Turn to Drive, elle était née d'une improvisation lors de l'enregistrement en 2000 d'un album que Bowie, malgré ses efforts, n'était pas parvenu à publier. Il avait eu l'idée inattendue de déterrer les meilleures chansons de ce qu'on pourrait appeler sa préhistoire, soit celles d'avant son premier succès de 1969, Space Oddity. Il en avait même écrit certaines avant de s'appeler David Bowie au temps où il était encore David Jones. Son idée était de leur offrir d'une certaine façon une deuxième chance, soutenue par son excellent groupe de scène d'alors. Sa compagnie de disques avait néanmoins rejeté cet enregistrement intitulé Toy et Bowie s'était mis vainement en quête d'un distributeur avant de laisser tomber. Il y avait ajouté une nouvelle et excellente chanson, donc Toy or Turn to Drive, celle donc qu'on vient d'entendre. L'album n'a connu qu'une publication officielle tardive, posthume, ça a été à la fin de l'année dernière, donc 2021. Cela dit, les amateurs le connaissaient déjà, puisque en 2011, une fuite dont Bowie était sans doute lui-même complice, avait rendu l'album intégral accessible en streaming sur la toile. Cela dit, l'événement le plus important auquel restera associé David Bowie au cours des 15 années du 21e siècle qu'il a vécu, n'est peut-être pas sa musique, mais une exposition. D'un genre sans précédent pour un auteur et chanteur populaire et qui restera sans doute unique en son genre. Je veux parler de l'exposition internationale David Bowie Is. Elle fut inaugurée en mars 2013 à Londres, au Victoria and Albert Museum, alors que paraissait l'album The Next Day. On a pu la découvrir 2 ans plus tard en France, à Paris, à la Philharmonie, où, comme partout, elle a obtenu un immense succès. En tout cas, de toute l'histoire du Victoria and Albert, jamais une exposition n'a vu défiler autant de visiteurs. Quand elle a terminé son parcours à New York en 2018, après avoir été montrée dans 11 villes en tout, on a compté en tout 1 800 000 spectateurs et ce fut, pour ceux qui l'ont visité, une immersion totale, une expérience visuelle et sensorielle à la fois. Alors je ne vais pas me hasarder à vous énumérer ne serait-ce qu'une partie des 500 objets et 60 costumes de scène sélectionnés par les commissaires, ni même vous énumérer le nom de ceux qui les ont dessinés et conçus, ni des 50 films et vidéos qu'on pouvait y voir. Non, il me paraît plus important de mettre en lumière l'aspect qui, dans cette affaire, me semble le plus étonnant. Les commissaires ont procédé à un tri qui donne le vertige. Il se trouve que David Bowie avait entreposé à New York, dans un lieu tenu secret, l'intégralité de toute sa vie d'artiste. Tout, absolument tout était là, en ordre, parfaitement rangé et étiqueté, à partir de la première affiche annonçant le premier concert du premier groupe dont il avait fait partie à l'âge de 16 ans. Il y avait entreposé là des centaines et des centaines de costumes de scène et de chaussures jusqu'au moindre accessoire. Tous les éléments de décor qu'il avait pu rassembler de ses tournées, du plus grand au plus petit, étaient également là. La plupart des instruments de musique qu'il avait utilisés. Il avait aussi récupéré les vieilles machines électroniques de Brian Eno que celui-ci avait vendues aux enchères et que Bowie était parvenu à racheter. Oui, Bowie avait absolument tout gardé, tout archivé. Les documents de travail utilisés pour réaliser ses pochettes d'albums, jusqu'à la moindre effigie en carton de Ziggy Stardust. Et encore, ses notes, les brouillons des paroles de ses chansons dans des classeurs, jusqu'au moindre de ses calepins, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Il avait même conservé des post-it et des Kleenex avec des traces de rouge à lèvres de ses maquillages. Une leçon qu'il avait certainement apprise auprès d'un de ses maîtres, Andy Warhol, qui lui aussi avait absolument tout conservé. On aurait répertorié pas moins de 100 000 objets dans les archives de David Bowie. Mais, et c'est très significatif, l'exposition ne révélait absolument rien de la vie de Bowie avant Bowie. Rien sur David Jones, rien sur son enfance, aucune photo de ses parents, de son demi-frère, de son école, de ses amis. Jusqu'à la fin, Bowie est resté le metteur en scène de sa propre vie, rejetant tout ce qu'il n'avait pas créé lui-même. Toute sa vie, il l'a inventé et même, si l'on ose dire, son au-delà. Thank you. Lazarus, comme Lazare, le mort miraculeusement ressuscité par le Christ. Quand je réécoute cette chanson, dont vous avez sûrement ressenti toute l'intensité, eh bien je revis le choc que j'ai éprouvé en découvrant un jour de janvier 2016 la vidéo qui l'accompagnait alors que je venais tout juste d'apprendre, bah, comme tout le monde, la mort de David Bowie. On voyait le chanteur dans un état effrayant, le teint cireux, la peau fripée comme une vieille pomme, étendu dans un lit d'hôpital, les yeux couverts par une gaze médicale, avec d'effrayants petits boutons noirs cousus dessus, comme dans un film d'horreur, se débattant comme à l'intérieur d'un cauchemar. Et à un moment, son corps entrait en lévitation, la chanson commençait par ces mots dont la vérité avait une résonance surnaturelle. « Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. » Regardez là-haut, je suis au paradis, j'ai des cicatrices que personne ne voit. Cette chanson, Lazarus, figurerait dans l'ultime album publié par David Bowie, Black Star. Elle avait été composée initialement pour une comédie musicale du même nom, Lazarus, Lazare, qu'on venait tout juste de présenter à New York, programmée pour une durée d'un mois environ, dans un petit théâtre de Manhattan. Les comédiens et chanteurs y reprenaient les chansons les plus connues de Bowie, augmentées de quelques inédits, dont ce Lazarus. L'ensemble était relié par une intrigue qu'avait conçue un auteur de théâtre et scénariste irlandais, Enda Walsh. Celui-ci avait imaginé une suite et une fin aux aventures de Newton, le héros extraterrestre qu'avait incarné au cinéma 40 ans auparavant un jeune David Bowie dans le film The Man Who Fell to Earth, l'homme qui venait d'ailleurs en français. Le producteur du spectacle avait sollicité un metteur en scène de théâtre et d'opéra, un des plus réputés en Europe, le Belge Ivo Van Hove. Van Hove avait apporté au spectacle sa touche particulière, dépouillée, caractérisée par une approche très actuelle, mais jamais de manière outrancière, des œuvres classiques. David Bowie avait pu assister à la première de Lazarus, c'était en décembre 2015, quelques semaines seulement avant sa mort. Et en novembre, le mois précédent, il avait tourné la vidéo de cette chanson, sa version à lui bien sûr, sous la direction d'un réalisateur et musicien suédois, Johan Renck. Celui-ci faisait partie des rares personnes qu'il avait été obligé de mettre dans la confidence de sa maladie. Et cet été-là, Bowie avait appelé Renck par Skype et lui avait dit très simplement « Johan, je vais mourir ». Bowie, on l'a bien sûr appris plus tard, avait appris au milieu de l'année précédente qu'il était atteint d'un cancer du foie. Il a suivi une chimiothérapie avant de connaître, au début de l'année 2015, une rémission qui lui a permis d'enregistrer l'album Black Star avec son vieux camarade Tony Visconti, lui aussi dans la confidence. Bowie a choisi pour la circonstance de remarquables musiciens de jazz new-yorkais, un quatuor emmené par le saxophoniste Donny McCaslin. Bowie avait remarqué celui-ci lors d'un concert. Et comme l'a déclaré Tony Visconti, Black Star n'est pas un album de jazz, mais un album de rock interprété par des musiciens de jazz, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Des musiciens également très influencés par le hip-hop, en particulier par les productions récentes du rappeur californien Kendrick Lamar. Le 8 janvier, jour donc de son anniversaire, Bowie publiait Black Star, ce qui fut célébré dans le monde entier comme un événement. Deux jours plus tard, le 10 janvier, on annonçait sa mort. Bien sûr, les deux événements, pour ainsi dire, fusionnèrent. Et dans la vidéo tournée par Renck en novembre, un plan non prévu avait été ajouté. On voyait Bowie entrer dans un placard et refermer lentement la porte sur lui comme un enfant qui fait une farce. Certainement la plus élégante sortie de scène qu'un acteur ou un chanteur ait jamais imaginée à l'image de David Bowie. I can't
thing.
I Can't Give Everything Away, un extrait de l'ultime album de David Bowie, Black Star. Le 10 janvier 2016, un bref communiqué annonçait que que Bowie était mort dans la paix, entre guillemets, dans son appartement new-yorkais. Aucune cérémonie publique n'eut lieu. Il fut incinéré dans l'intimité et deux jours plus tard, ses cendres seraient dispersées dans l'île de Bali. Partout, dans diverses grandes villes du monde, il y a eu des manifestations spontanées. Des gens se sont rassemblés à New York, bien sûr, devant chez lui, mais aussi à Londres, Milan, Berlin et même Rio de Janeiro, qui apportant des fleurs, des bougies, des photos, des dessins. À la Nouvelle-Orléans, Wayne Butler et Régine Chassagne du groupe Arcade Fire ont organisé une parade avec des musiciens du quartier. Partout dans le monde, le public s'est précipité pour acheter l'album Black Star. À l'heure de la musique gratuite et sans valeur, que l'on consomme ainsi que l'avait prophétisé Bowie lui-même en 1997, comme l'eau et l'électricité, eh bien, le chanteur avait réussi son coup en diffusant l'objet sacré absolu dans un monde où la musique ne l'était plus. Son camarade, Tony Visconti, qui le connaissait depuis plus de 45 ans, a eu les mots les plus justes, je les cite. « Il a toujours agi comme il a voulu et il a souhaité agir à sa manière la meilleure. Sa mort n'a pas été différente de sa vie, une œuvre d'art. » Iggy Pop a décrit David Bowie comme la lumière de sa vie et Mick Jagger a eu cette formule belle et inattendue sur son ami. Il a toujours été magnifiquement effronté dans son œuvre. Prince, qui n'avait plus que quelques mois à vivre lui-même, a chanté Heroes à la fin d'un concert. Alors bon, on ne s'est pas privé de dire de son vivant les pires choses sur David Bowie, qu'il n'avait rien inventé, qu'il n'avait fait que piller les autres. Certains l'ont carrément traité de charognard. Quoi d'autre ? On a pu dire que l'homme était pingre, ingrat, qu'il jetait ses collaborateurs quand ils ne lui servaient plus. Et puis, une fois qu'il est mort, c'est toujours pareil, il est devenu un saint et un martyr. Faut que je vous fasse un aveu. Avant d'aborder cette série, je regardais David Bowie comme un génie du théâtre musical. Je le voyais comme celui qui, dans l'histoire du rock, au sens large, avait porté au plus haut l'art de la mise en scène et qui faisait de la musique, je ne sais pas, comme un couturier fait des collections. Et j'avais souvent du mal avec sa voix, justement, trop théâtrale. Eh bien, ce qui me frappe à présent, maintenant que j'arrive au terme de cette odyssée, c'est l'aptitude, sans doute unique, qu'a eu David Bowie dans ce domaine modeste, qu'est l'art de la chanson populaire, à capter par l'intuition poétique l'essentiel de ce qu'ont représenté les 50 dernières années que nous avons vécues, nous, habitants des sociétés occidentales. Un désir téméraire de délivrance par l'évasion, que ce soit la libération sexuelle ou les paradis artificiels, mais aussi sa contrepartie, le vertige, l'angoisse d'être perdu dans un monde qui n'a plus aucun sens, où l'on a perdu pied et où l'on a peur. Alors qu'on voit briller là-haut quelque chose d'hors d'atteinte, d'inaccessible, de plus beau et de plus grand que soi, de plus grand que son pauvre moi et sa pauvre vie. Et pour exprimer cela, chanter était une solution, ce fut celle de David Bowie. Voilà, c'était David Bowie. Black Star, la magnifique chanson-titre de l'ultime album de David Bowie pour conclure l'ultime épisode de cette série qui lui a été consacrée.
Very Good Bowie Trip, Mishka Assayas, sur France Inter. Une série réalisée par Frédéric Milano et Stéphane Ronxin.